de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 1er octobre 2002 à Saint-Jodard.
Sainte Thérèse doit nous aider à faire de la métaphysique. Parce que si sur la terre, elle n'en a pas fait beaucoup, au ciel, elle comprend que c'est très important. Alors, on doit commencer à entrer en philosophie première. Philosophie première, c'est le terme d'Aristote. Et c'est le terme qu'il vaut mieux employer aujourd'hui, puisqu'on a fusillé le métaphysique. Et le mot métaphysique, du reste, ne signifie rien. C'est après. Ce sont les bibliothécaires qui ont donné ce nom-là. Donc c'est très extrinsèque. Ce sont des livres qu'on met après la physique. Alors, métaphysique, oui. Après la physique. Après la physique, il y a tout. Tandis que philosophie première exprime quelque chose de très sérieux. La philosophie s'achève là. Elle est première dans le sens de noblesse. Toute la philosophie s'achève dans ce que nous allons voir ensemble. Alors, il faut toujours se rappeler, d'abord, qu'est-ce que c'est que la philosophie ? Philosophia, ami de la sagesse. Donc, les philosophes tendent vers la sagesse, puisqu'ils sont les amis de la sagesse. Ils tendent vers la sagesse. Et on oublie beaucoup trop la signification de ce terme. Nous ne sommes pas uniquement des scientifiques. Les mathématiques, Aristote reconnaît qu'elles ont une dignité très spéciale dans la certitude. Il n'est pas dans la vérité, mais dans la certitude. C'est pour ça qu'aujourd'hui, où tout le monde a peur, on se réfugie dans les mathématiques. Et c'est un faux refuge, puisque c'est du possible. Et le possible n'est jamais un refuge, puisque c'est possible que ça n'existe pas. C'est possible. L'ouverture, être et non-être, c'est possible. Et ça demeure dans le possible. Je dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui, les mathématiques deviennent le rival constant de la philosophie. La philosophie doit être un regard sur le réel, sur ce qui est, et les mathématiques sont un regard sur le possible. Sur le possible mathématique, c'est pas n'importe quel possible. C'est un possible que l'homme peut faire. Et ça, les mathématiques. Les mathématiques demandent de se réaliser dans des œuvres. Et elles sont ordonnées à quelque chose d'ordre plus pratique. Pas directement en elles-mêmes, mais par l'homme. Parce que très souvent, elles ne sont pas directement pratiques. La philosophie tend vers la sagesse. On est ami de la sagesse. Nous faisons ici une philosophie réaliste, c'est-à-dire qui cherche la vérité, qui cherche à parler de ce qui est, de ce qui existe. Je ne fais pas une philosophie de l'avenir, du demain. On m'avait demandé une fois à Fribourg, c'était avant l'an 2000, de parler une conférence que sera la philosophie en l'an 2000. Alors, j'ai commencé à dire qu'on ne peut pas savoir. Que sera la réalité en l'an 2000 ? Ça, ce serait intéressant. Que sera la réalité en l'an 2000 ? Alors, je dis, l'homme, sans doute, n'aura pas changé beaucoup. Il y aura encore des très braves gens et puis des bandits. Ça ne change pas beaucoup, ça. Il y a un pourcentage, puisqu'on est très dans la démocratie. Alors le pourcentage joue beaucoup. Donc la philosophie cherche la vérité, ce qui est. La philosophie monte en quelque sorte vers ce qui est plus parfait. La philosophie ne quitte jamais l'homme. C'est la grosse différence avec les mathématiques. Où l'homme n'intervient pas. Les mathématiques sont profondément humaines en ce sens que c'est l'homme qui les a fait et qui les fait, mais elle est profondément inhumaine quant à son objet, où elle est en dehors de l'homme. Tandis que la philosophie est toujours lié à l'homme. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier. On cherche à savoir ce qu'est l'homme. Et on essaie à le comprendre le plus qu'on peut. C'est pour ça qu'au terme de la métaphysique, il y a tout le problème de la personne. Et d'une certaine manière, toute la philosophie se termine à cette recherche de l'homme. Qu'est-ce que l'homme ? Et ça, c'est important. C'est ce qui nous intéresse. Savoir ce qu'on est. Connais-toi toi-même, n'oublions pas ça. La philosophie a commencé comme ça, connais-toi toi-même. Se connaître, connaître son ami, connaître ce qu'est l'homme. Alors pour connaître ce qu'est l'homme, on part des réalités que l'homme fait. On part de la responsabilité de l'homme. L'homme est quelqu'un qui est responsable de ses actes. Quand il n'est plus responsable de ses actes, c'est plus un homme. L'homme vit en société. Les trois premières parties de la philosophie, où l'homme est directement en cause, ce qu'il fait, ses intentions, oui. On le prend de l'extérieur, ce qu'il fait, et puis ses intentions, cette intériorité. On passe de l'extérieur à l'intériorité. Et on voit ensuite le conditionnement de cette intériorité, parce qu'il vit en communauté. Communauté politique. le point de vue politique, c'est la communauté parfaite. C'est ouais, parfaite. C'est la communauté la plus importante. Le politique est là. C'est-à-dire que le politique, aujourd'hui, devient mondial. On ne peut plus traiter du politique uniquement d'un petit pays. On est complètement dépendants les uns des autres dans toute l'humanité. Donc, c'est une politique mondiale. Et une fois qu'on a traité le point de vue de l'homme dans ses activités et dans ses responsabilités, dans ce point de vue moral, et de ce qu'il fait, on a un regard beaucoup plus philosophique, ce qu'il est. Ce qu'il est, il fait partie d'un univers, philosophie de la nature. Il est un vivant. Et il est le premier des vivants. Je n'ai pas d'expérience d'un vivant supérieur à l'homme. Donc, il est un vivant parfait. Et parce qu'il est un vivant parfait, je vois étudier qu'est-ce qui est au-delà du vivant. C'est ce qui est. Vous voyez ? La grande distinction, esse, vivere, intelligere, se retrouve. Cette distinction classique chez les néoplatoniciens, chez les platoniciens et chez Aristote. Le devenir, le vivant, l'être. Et la philosophie première étudie ce qu'est l'être. Vous voyez, on dépasse l'homme en regardant ce qu'est l'être. C'est vrai, l'homme est, il existe, mais en regardant ce qu'il est, je m'ouvre à ce qui peut exister au-delà. Je ne m'enferme pas uniquement à ce vivant particulier qu'est l'homme. Je m'ouvre à l'être. C'est pour ça que la philosophie première commence par comprendre ce qu'est l'être en tant qu'être. C'est la fameuse parole d'Aristote. Le tuon eon. C'est-à-dire ce qui est, tuon, ce qui est en tant qu'il est. C'est en tant qu'il est la formalisation de ce qui est. Ce qui est, tout ce qui est, ça m'intéresse. Mais ce qui est, je peux le regarder dans son extension, toutes les réalités qui existent sont ce qui est. Alors, c'est pas ça la philosophie première. La philosophie première, c'est regarder ce qui est sous le point de vue de l'être. To on et on. Alors, certains ont traduit l'étant en tant qu'étant. Je crois que ce n'est pas du tout l'intention d'Aristote. Le tuon, en effet, étant. Vous voyez, c'est là, on voit que la grammatique, la grammaire est importante, puisqu'on parle. C'est important, la grammaire. Mais on ne fait pas la philosophie de la grammaire. On fait la philosophie de la réalité. C'est la réalité qui m'intéresse. La grammaire, c'est comment je parle de la réalité. C'est intéressant, savoir comment je parle de la réalité. Mais je suis au-delà de ça. C'est la réalité qui m'intéresse, c'est pas comment la réalité. C'est très important de faire cette distinction, parce qu'aujourd'hui, on est tellement penché sur l'homme que le comment on atteint la réalité est plus important que la réalité. Alors que chez le grec, chez Aristote, c'est la réalité qui est plus intéressante que le comment je le connais. Comment je le connais, c'est très bien, c'est intéressant, mais comment je le connais, ce n'est pas ma finalité. Ma finalité, c'est de connaître la réalité. Vous voyez, on a perdu complètement le sens de la finalité. Aujourd'hui, complètement. Et on s'attarde aux choses secondes. On oublie l'essentiel. C'est très important de comprendre ça. Parce que on oublie l'essentiel, c'est-à-dire la réalité que je connais. Si je cherche à connaître, c'est pour connaître, c'est pour savoir ce qu'est la réalité. C'est pas pour savoir comment je le connais. Mais on est tellement pris par l'avoir qu'on oublie l'être. Et qu'on considère que l'être n'a aucune importance. Mais l'avoir, oh, très important. Comment je connais ? C'est important de savoir ça, parce que de fait, toutes les philosophies secondaires qui ne recherchent plus la vérité sont des philosophies du comment. Comment je connais ? Comment je suis gourmand ? Comment je peux attraper le bien de l'autre sans que l'autre s'en aperçoive ? Comment ? Le bien de l'autre, on verra après ce que c'est que cette aide qu'on a pris. Mais ce qui est intéressant, c'est comment je vais le prendre. Vous voyez, tout ce qui tourne autour de nous, tout ce qui est en relation avec nous, c'est ça qui prime. Hein. C'est cette relation par rapport à nous, le comment. Et ça, ça a été dit avec force, avec Auguste Comte, avec le positivisme. Et au fond, Auguste Comte, en faisant ça, constate la réalité. De son temps, c'est ça qui intéresse, c'est le comment. Regardez un petit peu dans votre vie, hein. Soyez loyal dans votre vie. Le comment est plus intéressant que votre fin. Vous vous occupez beaucoup plus du comment que de votre fin. Il y en a peut-être certains qui sont déjà convertis. La grande conversion de l'intelligence, c'est de passer du comment à la finalité. Et pour vous tous, je crois que c'est la grande conversion. On est de notre monde. Et notre monde a été marqué par le positivisme d'une façon très très forte. Et dans le positivisme, c'est très simple, c'est le comment qui prime. C'est le comment qui prime, c'est l'avoir, c'est pas l'être, c'est pas ce qui est. Alors il faut d'abord prendre conscience de ça, puisque on ne peut se convertir que quand on a pris conscience de ça. C'est très intéressant le comment, c'est très utile le comment, mais c'est second, c'est pas premier. Or, on parle de philosophie première. Qu'est-ce qui est le principal dans la philosophie? Qu'est-ce qui passe avant tout? C'est ce qui est. Alors, voyez, on ne peut entrer en philosophie première que s'il y a cette conversion. Bien, ce n'est pas le comment. Les objections que vous aurez toujours, il faudra les donner, vos objections. Mais vos objections viennent toujours du comment qui est premier. Il est difficile à dépasser le comment. C'est dépasser le positivisme. Et le positivisme a marqué même les théologiens. Les théologiens s'intéressent plus au comment qu'à Dieu. Ils s'intéressent plus à voir comment la parole de Dieu, nous devons la regarder. Est-ce que, plutôt que de dire, la parole de Dieu m'est donnée pour que je connaisse Dieu. C'est Dieu qui m'a... Comment? On verra après. C'est tellement instinctif pour nous, ça. Et c'est ce positivisme qui imprègne le monde d'aujourd'hui. Ce qu'il y a de plus terrible dans notre monde d'aujourd'hui, c'est ce positivisme qui éteint l'intelligence. Parce que je ne veux voir que le comment. C'est la seule chose que je vois. Hein. La finalité, vous ne la voyez pas. Vous y tendez d'autres choses. Tandis que le comment, comment êtes-vous assis? C'est quand même très important. Comment êtes-vous assis? Êtes-vous bien assis? Vous pouvez attendre longtemps comme ça, ou bien vous êtes assis sur un tout petit bout de siège parce que à côté de vous il y a quelqu'un d'énorme. Alors à ce moment-là, le comment joue beaucoup. Normalement, quand vous êtes assis de quelqu'un qui est normal, qui prend sa place bien sagement, vous n'y pensez plus. Parce que vous êtes assis, pourquoi? Pour entendre le cours. C'est pas ce comment qui vous intéresse en premier lieu, c'est écouter le cours, la finalité. Mais si vous êtes très mal assis, vous serez toujours dire très mal, oui. Pendant tout le cours, vous ne pensez à votre comment. L'humanité est mal assise. Alors, elle s'occupe du comment. Comment est-elle assise? C'est extrêmement curieux. C'est un mal universel. Hein. On est plongé dans ce milieu-là et on ne peut pas le changer. Hein. Mais on doit quand même émerger, se sauver. On doit émerger. Donc on doit savoir qu'il y a un mal universel, et parce que ce mal universel est universel, on ne s'en occupe pas, on est dedans. Alors, il faut comprendre que nous voulons émerger de ce mal universel pour nous mettre devant la réalité. Parce que si on est chrétien, c'est pas le comment qui est le plus intéressant. C'est savoir où on va. C'est ça qui m'intéresse, savoir où on va. La finalité. Comment j'y vais, on verra ça après. Mais il faut d'abord regarder ma finalité. Est-ce que j'y vais sur le dos d'un âne? Est-ce que je vais en bicyclette? Est-ce que je vais à pied? Est-ce que je vais en auto? Ça, c'est le comment. Mais aujourd'hui, ce comment passe constamment devant. Réfléchissez un petit peu dans les conversations. C'est toujours le comment. On est comme fixé sur le comment. Et on n'arrive pas à en sortir. Alors, la philosophie, et surtout la philosophie première, doit vous faire sortir de ce comment. Toutes vos objections, vous verrez, viennent de votre comment, qui vous intéresse plus que où vous allez. Le comment étant immédiate, puisque le premier comment, c'est votre corps. C'est le premier comment. Vous n'êtes pas des anges. Vous pouvez avoir la même finalité que les anges, mais c'est avec mon frère l'âne. L'ange, ils n'ont pas de frère l'âne. Alors évidemment, ça fait une très grande différence. Mais c'est la même finalité. La première chose à comprendre, à saisir, c'est justement ce point de départ du problème de philosophie première. C'est ceci est. Ceci existe. J'existe. Ah. De fait, c'est vrai, quand je regarde historiquement le problème de la philosophie première, la philosophie première a été inventée, découverte par Aristote. Face à Platon. Platon n'a pas découvert la philosophie première. Il a découvert des choses extrêmement intéressantes, mais il n'a pas découvert la philosophie première. Il a découvert l'idée, l'idée. C'est ça qu'il a découvert. Donc, quelque chose qui plafonne, qui est en moi, mais qui plafonne. L'idée, d'où ça vient l'idée? Les idées, c'est pas les idées. Non, c'est les idées avec un grand I. Pas un petit i. Vous avez des idées, mais c'est des petites idées. Et on peut faire que ces petites idées soient des grandes idées. Idées, idéa, avec un grand i. Et pour Platon, c'est ça qui est intéressant, c'est de chercher ces idéas, ces grandes idées. mais qui sont le fruit des petites. C'est les petites qui ont engendré les grandes. C'est curieux, et c'est comme ça. Et c'est peut-être ça qui montre que c'est pas juste. Parce que les petites n'engendrent jamais les grandes. Et pourtant, dans Platon, les petites engendrent les grandes. Alors, à un moment donné, on doit dire que les grandes, elles existent par elles-mêmes. Les idiots. Ils cherchent les idiots. Aristote cherche quelle est ma fin ? Quel est mon bonheur ? Les idéaux, pour Aristote, n'existent pas. Ce sont des moulins à vent, ça n'existe pas. Je les ai fabriqués. Existe-t-elle ? Quelle est ma fin ? Qu'est-ce qui m'attire ? Qu'est-ce qui me donne le dynamisme pour travailler ? La force pour sortir de moi ? Quel est mon bien ? À la place de l'idéa, ce sera la recherche du bien. C'est la grosse différence au point de vue pratique. Platon cherche quelque chose qui n'existe pas, qui est très beau, les idéaux. Les idées avec un grand I, c'est très beau. C'est d'autant plus beau qu'elles n'existent pas. Alors je les atteins jamais. Elles sont comme un paradis idéal que je n'atteins jamais. Tandis que mon bonheur, je sais bien ce que c'est. Il y a des jours où je suis de bonne humeur et heureux. Il y a des jours où je suis malheureux. C'est curieux ça. Je n'opte pas pour les jours où je suis malheureux. Je voudrais que tous mes jours, je sois heureux. Alors, qu'est-ce qui me rend heureux ? Qu'est-ce qui fait que je suis heureux ? C'est que je découvre mon bien. En découvrant mon bien et en possédant mon bien, je suis heureux. Ce bien peut être un bien très factice, mais c'est quand même mon bien pendant un petit moment. L'enfant, quand on lui donne un sucre, pendant quelques minutes, il ne pleure plus. Quand il pleure, on lui a dit ses sucettes sucrées. Et il s'est tué. Et on est toujours des grands enfants. C'est-à-dire que le morceau de sucre a changé. C'est plus toujours le même. C'est plus la sucette. On a tous une sucette qui fait que quelque chose nous réconcilie avec nous-mêmes. Parce que le bonheur, c'est ça, c'est se réconcilier avec soi-même pour trouver la paix. Et pouvoir, par le fait même, vraiment aimer. Dès qu'on analyse le fait d'être bien dans sa peau, d'être heureux, être bonheur. Il ne faut pas oublier qu'Aristote se trouvait devant ce grand colosse énorme, qu'il a admiré. Resté 20 ans disciple de Platon. C'est quand même quelque chose. Il l'a admiré. Il l'a trouvé très grand, très beau. Mais Aristote n'a pas pu se mettre entièrement à l'école de Platon. Il a dit, ce n'est pas le beau qu'on cherche, on cherche le bien. C'est le bien qu'il a voulu chercher. Et le bien, il existe. Ah ! Alors, avant de trouver le bien, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'exister ? Qu'est-ce que c'est que l'être ? Puisque pour qu'une chose soit bonne, il faut qu'elle existe. Il faut donc savoir ce que c'est que l'être. Alors, on voit comment, en face de Platon qui cherche les idées, Aristote va se mettre à chercher ce qu'est l'être. C'est montré dans l'histoire, autant qu'on peut le savoir. On peut voir ces deux grands colosses au point de vue de la pensée, Platon et Aristote. Ces deux grands colosses qui s'affrontent. L'un, l'idée, l'autre, le bien. Mais la première opposition entre l'idée, l'idéa, et le bien, c'est que l'idée n'existe pas. Le bien existe. Donc, c'est une question d'être. Qu'est-ce que c'est que l'être ? L'idéa, une manière d'être particulière. Mais ce n'est pas la réalité. C'est une réalité que je lui donne. C'est mon intelligence qui donne ça. Mais je ne suis pas créateur. Mon intelligence peut créer des idées. Mais ces idées n'existent pas. Ces idées peuvent être fallacieuses. Elles peuvent m'attirer. Je peux les admirer. Mais elles n'existent pas. Elles ne sont pas bonnes. Le bien, c'est toujours quelque chose qui existe. Vous voyez, cette première opposition d'Aristote, pour voir comment il est arrivé à dire il faut rechercher l'être en tant qu'être. C'est quand même dire ça. C'est, quand il a déjà été dit, on peut très bien le redire, oui, mais avoir inventé ça, le tōn eōn, l'être en tant qu'être. C'est l'affrontement avec Platon. Devant ce géant, c'est vrai, Platon c'est un géant, du point de vue intellectuel. Devant ce géant, comment la petite fronde de David comment l'attaquer? Comment que tout ce beau système merveilleux s'effronde? Il m'a séduit. Je peux être séduit par Platon. Mais vous ne pouvez pas vous y arrêter. Parce que c'est une séduction intellectuelle. Une très belle séduction intellectuelle. Mais c'est une séduction. Alors, qu'est-ce qui va montrer que c'est une séduction? Qu'est-ce qui va me montrer la différence entre le bonheur qui vient de l'acquisition de mon bien et l'idée que Platon a forgée? C'est justement que l'un existe, il est, et l'autre n'existe pas. Oui. C'est important de voir qu'Aristote cherche ce qui est en tant qu'être pour pouvoir atteindre la tête, la tempe, comme Goliath, comme le petit David. Et tout s'écroule. Cool.